Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous. Salut Sidonie, vous allez bien? Vous voulez une pilule bleue?
Oui, pourquoi? Pour mon micro qui
arrête
de tomber.
Parce que votre micro, il est un peu mou.
Ça va être le Viagra des micros. Je dois vous avouer que j'ai un micro qui tombe un peu. Donc parfois, sur RTL.fr, vous me verrez le tenir à la main. Voilà, comme si j'animais un divertissement.
On va faire le sommaire.
On va y aller quand même. Au programme, la deuxième vie de nos déchets. Où finira peut-être mon micro d'ailleurs. Nous produisons 31 millions de tonnes de déchets par an. C'est énorme. Allez, hop, j'ai encore jeté un truc. Mon micro, nos poubelles débordent et il faut évidemment trouver une solution. On vous racontera tout ça avec le magazine Ça m'intéresse.
Et puis tout à l'heure, on va beaucoup moins faire les fiers puisqu'on va partager le quotidien d'un embaumeur. Il prépare le corps des défunts juste après la mort. Métier physiquement, psychologiquement difficile. Surtout, vous l'entendrez quand des phénomènes paranormaux surviennent. Mais tout de suite, quand la météo change le cours de l'histoire.
Est un vilain défaut.
Un soir de pluie.
Regardez l'évolution pour les prochaines heures. On va retrouver encore cette répartition.
Sous le soleil, exactement.
Avec du soleil dans l'ouest ou encore ici dans le nord, sauf près de la Manche.
RTL.
Dites-moi, mon Louis, ce soir, vous serez sur notre antenne?
Oui, je serai.
À quelle heure?
À 20h.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et merci à Yves Calvi d'avoir annoncé votre venue ce soir. Louis Baudin, ingénieur, prévisionniste, météorologue, chef du service météo de RTL. Il faut redire tout ça de temps en temps parce que nos auditeurs le savent peut-être pas. On va se faire...
Comme si on disait bonsoir à Louis Baudin.
Bah oui, mais on l'a déjà vu tout à l'heure.
Mais on s'est pas fait un vrai bonsoir. Bienvenue dans la
Comment ça va, Louis?
Ah bah je suis content d'être là.
Mais
bonsoir.
Nous aussi, on est content.
On va faire comme un bulletin météo historique,
très souvent.
C'est vrai, vous aimez bien la curiosité?
Oui, elle porte bien son nom, on apprend plein de choses. Et bon. Je crois qu'il faut être curieux, même si c'est un vilain défaut.
Ça fait plaisir.
C'est sympa, ça fait très plaisir. Bulletin météo historique, c'est ce que vous nous proposez. Et on va commencer. Alors, on va parler du débarquement de juin 44, la révolution de 89, la retraite de Russie, Napoléon 1812. Évidemment, ces dates majeures, on va les traiter. Mais en lisant votre livre, Quand la météo fait l'histoire, j'ai découvert ce volcan, le volcan Tambora. C'était il y a 200 ans.
Un peu plus de 200 ans, tout juste. Effectivement. Oui, c'est effectivement un cyclone que l'on a reconstitué, ou dont on. Pas un cyclone, un volcan.
L'éruption d'un volcan.
Dont on a reconstitué un peu les conséquences par rapport aux observations qu'on a pu constater à l'époque. Mais en fait, à cette époque-là, on a tout simplement vu une espèce de saison interminable de pluie, de nuages, peu de soleil.
On est dans quelle région avec ce volcan Tambora?
Partout. Alors Tambora, on est en Indonésie, mais les conséquences, on les mesure partout, et notamment en France, en Europe de l'Ouest, on le mesure également sur place. Alors on n'a pas des témoignages partout dans le monde, mais on s'aperçoit que probablement sur une grande partie de l'hémisphère nord, on a une activité nuageuse largement supérieure à ce que l'on avait d'habitude. Et avec cette activité nuageuse, des pluies, donc beaucoup d'humidité, peu de soleil, donc des saisons qui ont été très perturbées. Et des saisons perturbées, ça veut dire quoi à cette époque-là? Ça veut dire des cultures qui n'ont plus les rendements suffisants pour donner à manger à tout le monde, et donc des conséquences dramatiques sur les populations qui meurent de faim à cette époque-là. Et déjà, à cette époque-là, les gouvernements, les rois, les États sont pris de court, parce qu'effectivement, devant quelque chose de totalement imprévisible, eh bien, on se retrouve avec des populations totalement exsangues, et évidemment, ça commence un peu à rousiner ici ou là.
C'est donc un hiver volcanique que la planète a vécu il y a 200 ans. En cette même année 1815, Napoléon doit aussi affronter une météo absolument hostile. Quel temps fait-il en juin? On est à la veille de la bataille de Waterloo.
Alors là, c'est incroyable. Quand on se replonge dans l'histoire, qu'on retrouve des détails comme ça, on se dit, mais parfois, il y a un petit coup de pouce, ou au contraire, le destin s'en mêle, parce qu'au mois de juin, normalement, on le sait, mettons-nous en France, même si on est un peu dans le nord, on commence à avoir des journées un peu sympas, on commence à se dire des températures un peu agréables. Ben non, là, ce jour-là, au contraire, on a encore des perturbations qui circulent, et justement, comme on a un peu d'air chaud, ces perturbations sont actives, donc elles donnent beaucoup de pluie. Alors ça dure pas forcément très longtemps, sauf que sur ce terrain-là où les hostilités vont se produire, eh bien, ça crée de la boue. On a pendant deux nuits à peu près, pas plus. Avant, il avait fait relativement beau, et après, il va faire beau. Mais juste avant la bataille, comme un fait exprès. Il tombe probablement plusieurs dizaines de millimètres. Et là, évidemment, ça tombe pas sur du béton, sur des routes. Non, ça tombe dans de la boue. Hein. Faut imaginer qu'à ce moment-là, le béton n'existe pas. Donc, où qu'on se trouve, on est dans la boue.
Donc, dès qu'ils sont dans quel état, les grognards, les soldats de la Grande Armée?
Là, ils sont transit froid, même si on est au mois de juin, parce que, évidemment, on ne se protège pas de la pluie. Alors, ils ont quelques vêtements, mais on imagine bien qu'à l'époque, c'est pas le bon ciré qu'on peut avoir sur nos bateaux modernes. Mais au contraire, ça passe, ça coule. Et puis, au contraire, ça s'imprègne dans les vêtements. Donc, après, on sèche plus.
Avec la boue, on se reconnaît pas entre soldats.
Exactement. Avec la boue, ensuite, on est complètement lourd, on est transi, on n'arrive plus à se bouger. Imaginez des vêtements, allez vous rouler dans la boue avec des vêtements d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'on n'arrive plus à se bouger. Mmh. Ben là, c'est ce qui se passe. Il y a une armée qui, finalement, au lieu d'être complètement gaillarde, prête à se battre, au contraire, elle a froid, transi, elle est recroquevillée sur elle-même et elle a du mal à bouger.
Mais il y avait des, alors le terme est anachronique, des prévisions météo ou un équivalent à l'époque? Et si oui, qu'en faisait un stratège comme Napoléon?
Ah bah alors Napoléon, lui, à cette époque-là, c'était encore, on va outre la météorologie. La météorologie, elle appartenait, les éléments appartenaient encore probablement un peu à la religion, à Dieu. Enfin, c'était quelque chose qui dépassait l'homme. Et donc lui, pour se dépasser, il devait dire, moi, je vais passer outre et je vais être capable de faire, quelles que soient les conditions météo, mon travail et donc aller à la victoire.
C'est presque un défi, la météo.
C'était un défi à ce moment-là. Effectivement, on la subissait et en même temps, on montrait qu'on était fort en passant outre. Et c'est exactement ce qu'il essaie de faire. Malheureusement, la météo se rappelle à lui de manière un peu brutale.
Et Victor Hugo écrit dans Les Misérables, s'il n'avait pas plu dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, l'avenir de l'Europe était changé. C'est ce que j'ai trouvé dans votre livre, Quand la météo fait l'histoire,
en tout cas pour quelques décennies.
Albin Michel, en tout cas pour quelques décennies.
On va reculer certainement.
On va continuer de s'intéresser à cette météo historique. Tiens, un autre grand, alors c'était pas un empereur, c'était un roi, le plus grand des rois. On l'appelait le roi soleil, pourtant son règne fut une succession de calamités climatiques. Le mal nommé, donc, restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir, on a la curiosité de découvrir ces grandes dates de l'histoire sous l'angle de la météo. On vous disait tout à l'heure que le destin de Napoléon aurait peut-être été différent sans la pluie de Waterloo. C'est un autre règne que nous allons vous raconter maintenant, celui de Louis XIV. Alors peut-être que Lully a composé sous la pluie, qui sait, on va savoir ça avec notre ami Louis Baudin. Est-ce que le roi soleil portait bien son nom côté météo?
Eh bien non, justement, quand on se replonge dans les quelques archives, les quelques témoignages, on s'aperçoit que non, au contraire, il a eu un règne où il n'a pas eu de chance du tout, parce que la météo s'est acharnée. On a eu, alors, j'essaie de retrouver les bonnes dates, de fortes crues en 1651, 1650, 1658, on imagine probablement une crue supérieure à celle de 1910. Hein.
Dont on parlera tout à l'heure. D'ailleurs,
des références, donc vous imaginez quoi. Donc ça veut dire la ville engloutie, ça veut dire des conséquences dramatiques, des centaines de blessés, des dizaines de milliers de morts par moment.
Des hivers après, très très rudes.
Après, oui, voilà, il dit un hiver très rude. Le 1709, qui a priori, dans notre ère en tout cas, paraît l'hiver le plus rigoureux qu'on ait jamais eu en France. Après, il a enchaîné des saisons où on avait trop de pluie, pas assez de pluie, de la sécheresse et j'en reviens toujours à ce qui d'ailleurs façonne un petit peu l'évolution de notre société, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh ben, il n'y a plus de culture et il n'y a plus de rendement suffisant pour donner à manger à tout le monde. Et là, c'est immédiat. C'est-à-dire
la famine est immédiate.
La famine est immédiate, des maladies qui s'en suivent, donc ça veut dire des populations décimées.
Mais avec quel impact? Parce que à l'époque, je l'ai découvert dans votre livre, hein, Louis Baudin, il y a 20 millions de Français. Sous Louis XIV, il y a combien de morts à cause de la famine?
Plus d'un million de morts, on dit jusqu'à 1,2 million ou 1,3 million de morts. Donc c'est gigantesque en proportion, c'est une saignée. C'est-à-dire que comme si aujourd'hui, grâce ou à cause de la météo, on avait peut-être
4 millions de morts
à peu près, entre 3 et 4 millions de morts. Donc faut imaginer. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas s'en défendre. Hein. Quand il y a un hiver rigoureux, aujourd'hui on se calfeutre, on a des vêtements, on fait attention, on se met à l'abri, on a du chauffage. Rien de tout ça à l'époque. Donc il fallait se calfeutrer dans des maisons plus ou moins bien finies, avec plein de fuites partout, avec quand même sortir pour aller chercher à manger, enfin, avec en plus un manque de calories important, c'est-à-dire qu'on ne mangeait pas à sa faim dans la journée, donc ça veut dire que le corps était encore affaibli, les maladies, on ne s'en soignait pas, enfin c'est horrible.
Quand vous dites un hiver particulièrement rigoureux, ça veut dire que ça descend jusqu'à quelle température?
Moins 20, moins 30 degrés, c'est ce qu'on a mesuré à peu près dans cet hiver 1709, et ça dure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traverse quasiment tous les grands fleuves en France, à pied, parce qu'ils sont complètement pris par le gel. On traverse la Loire, la Seine, à pied. La banquise se forme sur les côtes de la Manche. La banquise se forme, qu'on peut la voir se former beaucoup plus loin vers la Scandinavie, par exemple. Ça veut dire également que quand on se déplace dans la journée, on peut, si on ne fait pas attention sur des déplacements trop longs, évidemment, on ne le fait pas dans les transports en commun, on le fait à pied, dans une charrette, un cheval, et bien à ce moment-là, on peut geler sur place. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, effectivement, on retrouve des piétons, on retrouve des gens qui meurent de froid quasiment dans la stature debout, tellement le froid s'est imprégné dans les sols et dans les,
alors,
les corps.
C'est la panique qui s'empare du pays, j'imagine.
Exactement. C'est-à-dire que là, on n'a plus aucun remède. C'est-à-dire que le roi ne sait plus quoi faire. On lui fait remonter tous ses commis dans le pays. Il faut remonter les informations comme quoi, eh bien, on voit tous ces disciples, ces sujets mourir de faim, essayer parfois de se jeter sur une réserve qui a pu être créée ici ou là parce que, évidemment, les nantis essayaient quand même de se protéger, d'avoir encore quelques nourritures. Mais très vite, c'était su et pris d'assaut. Donc, ça fomentait des mini petites révolutions à l'échelle de quelques régions. Mais à ce moment-là, on était probablement dans des situations d'anarchie sur le territoire. Oui.
Justement, quelques décennies plus tard, vous parliez de mini-révolution, en voilà une vraie, la révolution française. Cet hiver de 1788-89, on a compté les jours de gel à Paris. Il y en a eu combien, vous
Il y en a eu entre 50 et 60. Hein,
alors, c'est 86,
mais
dont 56 consécutifs.
Voilà, consécutifs.
C'est hallucinant, 56 jours de gel consécutif.
Voilà, c'est
à Paris.
Qui est plus impressionnant. Parce qu'on ait des journées de gel, bon, mais si, c'est entrecoupé de redoux. Mais non, quand c'est 56 jours où le gel rentre dans les sols, donc ça veut dire qu'on ne peut plus rien arracher, on ne peut plus rien cultiver, que les sols sont gelés, mais à des profondeurs conséquentes. Hein, on verra ça plus tard. Moi, en 85, j'étais à Marseille, par exemple, où on a vu, dans une région qui n'était pas habituée à ça, le gel descendre jusqu'à 20-25 cm. Et les canalisations qui sont enterrées à ces profondeurs-là, on n'a pas prévu que le gel descende si bas et donc tout pète. Donc ça veut dire qu'on paralyse en termes d'eau courante, de rejet d'eau ou encore le sol. Imaginez
mais
à
on
l'époque,
pouvait même pas enterrer les morts.
Exactement. Le sol totalement gelé. Donc on allait les mettre à l'abri sous les dalles dans les églises ou des choses comme ça. Mais c'est hallucinant. Non, mais il faut s'imaginer où un paroissien dit à un moment que ses disciples sont là dans l'église et en fait ils sont tout blancs. Imaginez, vous allez assister à une messe et vous êtes tout blanc. Alors pas parce que vous avez les cheveux blancs, non, parce que le gel est partout, sur votre visage, sur vos poils, sur quand vous inhalez, en fait, bah, tous ceux qui ont pu aller dans le Grand Nord ont mesuré ça. Hein, quand on vit dans ce froid-là, il faut faire attention, on respire, les yeux peuvent geler si on ne se protège pas suffisamment. Bah là, sans protection, sans rien, les gens vivaient dans des conditions aussi extrêmes.
Alors Louis Bonin, cet hiver sibérien 1788-89 fait suite à un été absolument chaud, terriblement chaud, avec un orage particulièrement violent. Le roi va en voir les effets. Qu'est-ce qui se passe à Rambouillet?
Oui, ça passe à Rambouillet, en fait. On pense, enfin, en reconstituant un peu les choses, il faut rester prudent. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait des espèces de mini-tornades, en tout cas des orages particulièrement violents qui ont traversé la France du sud-ouest vers le nord-est, comme on en connaît parfois à cette époque de l'année. Et donc, c'est passé sur Rambouillet. Donc, il a mesuré les effets, évidemment, de la météorologie, comme ont pu le vivre ces sujets un peu sur tout le territoire. Mais en fait, il n'a fait que des déclarations. Il n'a rien pu faire concrètement aujourd'hui. Il a juste simplement dit, je compatis, je comprends, j'ai un peu vécu la même chose à travers Rambouillet, mais il n'a pas été beaucoup plus loin.
Au fil des siècles, la météo deviendra un atout dans la manche des stratèges, comme en 1944 quand les Alliés attendent le fameux D-Day.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
De toute façon, moi, en tant que météorologiste, déjà, je ne peux pas m'empêcher de faire mes propres prévisions.
Seigneur météo, quand on dit qu'il fait beau, Seigneur météo,
je regarde, j'ai une sensibilité autour du temps. Est-ce qu'il va être fiable? Dans quel sens on va? Est-ce qu'on est un peu plus optimiste, un peu plus pessimiste que la veille? Donc ça, c'est évident que je fais mes prévisions.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et notre seigneur météo Louis Baudin se transforme en prof d'histoire.
Attendez, vous n'avez pas de pull au vert ce soir, Louis Baudin. Est-ce que ça veut dire une petite chemise? Est-ce que ça veut dire qu'il va faire beau demain?
Ça veut dire qu'il va faire doux, mais pas beau. Effectivement, la pluie revient demain, et notamment dans le sud. Il faut être prudent.
On va boucler, Louis, l'histoire de la Révolution française. On a raconté une succession d'événements météo particulièrement marquants. Grand froid, sécheresse, etc. etc. Enfin, dans le désordre, sécheresse, grand froid, pluie.
Tout seul à alterner, effectivement.
Voilà. Et finalement, vous diriez que le ressort le plus puissant de cette Révolution française, c'est la fin?
C'est la fin. C'est la fin, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, quand on a un dérèglement à cette époque de la Révolution, eh bien, on a aussitôt beaucoup moins de récoltes. Donc, ça veut dire qu'aussitôt, on meurt de faim. Évidemment, c'est une sensation qu'on connaît très peu aujourd'hui, même si parfois, on peut avoir des situations compliquées. Mais à cette époque-là, évidemment, la faim, mais ensuite, vous n'avez plus rien à perdre. Donc, à ce moment-là, eh bien, on peut commencer à engager un processus de révolution, de commencer à se révolter contre le pouvoir et fomente la Révolution française.
On va parler du D-Day, 6 juin 44. Tout le monde se souvient de cette date, forcément, mais qui sait que ce n'était pas la date prévue?
Non.
Louis Baudin, c'était quoi la date du débarquement initialement prévu?
Initialement, effectivement, ça devait se faire au mois de juin, mais il fallait penser avoir une lune à peu près favorable, donc on essayait de trouver ça. Il ne fallait pas qu'il y ait de trop grandes marées, parce que alors, sinon, pour débarquer, c'était un peu compliqué également. Donc, on avait trouvé deux bonnes périodes qui étaient début juin, entre le 5 et le 6 juin, et puis ensuite, il y a une période 15 jours plus tard, autour du 25 juin. Sauf que, à partir du moment où on avait lancer cette armada, qu'elle était prête, qu'elle était là en Angleterre, avec des centaines de milliers de soldats, imaginez faire patienter autant de monde 15 jours de plus.
Donc, oui, restant discret, accessoirement.
En restant discret, sans que ça se sache trop, qu'il n'y ait pas trop d'espions. Bien bref, sûr. C'était très compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a eu une pression sur l'équipe de météorologistes pour qu'on commençait à parler de météorologie. Les pauvres, ils n'avaient vraiment pas beaucoup de moyens pour travailler. Je pense que leur travail ne devait pas être facile tous les jours. Mais on a commencé à créer des météorologistes et on leur a demandé effectivement de trouver une fenêtre dans ces deux périodes un peu plus favorables. Et c'est vrai que de jour en jour, on s'est rendu compte que dans la période que l'on attendait, en tout cas qui stratégiquement était la bonne, bah finalement les conditions météo n'étaient pas forcément très favorables.
Juin.
Donc ça se passait début juin. Et c'est vrai qu'en plus début juin, pas de chance, il fait relativement beau et l'anticyclone revient et hop, 5-6 juin, il repart pour laisser passer de nouveau des perturbations. Et donc l'idée, c'est de passer entre deux perturbations. Et à un moment, les alliés font cette prévision de se dire, bon allez, entre ces deux perturbations, donc entre le 5 et 6 juin, on va peut-être avoir un petit créneau, donc un peu moins de vent, un peu moins de pluie, et on va tenter de
il s'agit de quelques heures, c'est ça ?
Voilà, quelques heures, un créneau de quelques heures.
Donc Eisenhower donne son go.
Son go.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, la météo, elle est comment ?
Elle est bien plus mauvaise que prévu. C'est-à-dire qu'entre les deux perturbations, il n'y a pas vraiment une accalmie. D'ailleurs, on le voit, si on revoit les images d'archives, on voit bien que les bateaux traversent avec une mer. On les voit passer dans une mer agitée. Il y a au moins 2,50 m de creux. Donc, en manche, quand on a 2,50 m de creux, ça veut dire qu'il y a encore du vent. Et quand ils arrivent sur les côtes, malheureusement, là encore, les vagues sont importantes. Oui, mais l'avantage, c'est que les Allemands, eux, qui suivaient également et qui faisaient leurs prévisions, font pas d'erreur de prévision. Et ils disent, avec une prévision aussi mauvaise,
avec une météo pareille, ils vont pas débarquer.
Ils vont pas débarquer.
C'est génial.
Et c'est quand même extraordinaire de voir que c'est entre d'une part une erreur et d'une part une bonne prévision qu'on arrive finalement à ce débarquement victorieux, même s'il a été compliqué.
Et une mauvaise météo qui a coûté la vie de nombreux soldats qui ne parviennent pas jusqu'au.
Alors
jusqu'au
ça,
plage,
oui, c'est vrai
que ces fameuses vagues que l'on voit
exactement,
sur les
ça,
images d'archives de ce débarquement.
C'est peut-être le plus horrible, c'est qu'avant même de combattre, d'abord ils avaient mal de mer, de chien, parce qu'évidemment pour la plupart c'est des terriens, ils n'avaient jamais vu la mer, pas du tout à mariner. Et donc ils arrivent, ils sont déjà pas bien, et effectivement ils débarquent dans une mer qui est agitée, parfois un peu loin du rivage, et avec un barda encore une fois, et donc peut estimer, alors j'ai pas réussi à trouver les vrais chiffres, parce que bon, peut-être qu'on n'en est pas très fiers, mais moi je dirais bien qu'entre 5 et 10% malheureusement des militaires sont morts avant même d'avoir eu à lutter, enfin d'avoir reçu des balles ou d'avoir eux-mêmes tiré, c'est-à-dire que effectivement le débarquement s'est pas passé dans de très très bonnes conditions.
Et en plus les bombardements préventifs ont été inefficaces à cause d'un manque de visibilité.
Ah bah exactement, on avait encore une grosse couverture nuageuse, on était entre deux perturbations avec toujours ces nuages, là encore on le voit sur les images d'archives,
le
ciel est sombre, c'est très nuageux, le plafond est bas, donc effectivement les bombardements sont totalement inefficaces ou en tout cas très imprécis.
On l'a appelé la crue du siècle, mais quelles seront les conséquences des inondations de 1910? Réponse dans une minute dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On revisite la grande histoire sur RTL dans la curiosité, mais côté météo avec Louis Baudin. Après la Seconde Guerre mondiale, on remonte le temps encore de quelques décennies. Nous sommes en 1910. Pourquoi cette année est particulièrement importante, célèbre, marquante pour les ingénieurs météo comme vous, Louis ?
La crue centenale, la crue incroyable, hein, celle qui a englouti Paris, en tout cas une bonne partie de Paris. C'est 20 000, 40 000 immeubles peut-être qui ont été touchés par cette inondation qu'il a fallu ou consolider ou reconstruire. C'est pendant deux mois à peu près une ville totalement paralysée qui parvient plus à se développer, alors qu'on est pourtant dans une année faste. On est encore avant la Première Guerre mondiale, plutôt dans une phase de développement. On a eu la grande exposition universelle, la science commence à avancer, la voiture arrive, les technologies commencent à progresser, la médecine a quelques embryons, donc c'est plutôt une bonne période. Et puis on a effectivement là cet arrêt brutal pour la capitale avec cette inondation majeure.
Alors le fameux zouave qu'on trouve sur le pont de l'Alma, qui sert souvent de référence, il est quoi? Il y a de l'eau jusqu'à la taille?
Non, au-dessus de la tête. Il est noyé, c'est-à-dire qu'il peut plus respirer, effectivement. Donc ça vous donne une idée, hein, puisqu'il était déjà à cet endroit-là de la crue majeure qu'on a connue à cette époque-là. Hein, c'est-à-dire toutes les berges envahies. Là, on n'est pas très loin de l'avenue Montaigne. Je pense qu'on aurait un petit peu les pieds dans l'eau. Même chose pour François Ier. De l'autre côté, les Invalides. Voilà.
Hein, il avait plus quoi pendant des semaines et des semaines.
Alors
avant,
voilà,
pour créer ces inondations,
c'est ce qui se passe.
Ces conditions.
On avait eu déjà des saisons avant où on avait eu des pluies majeures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les sols qui sont totalement imbibés. C'est-à-dire que les nappes phréatiques sont plutôt à des niveaux très hauts. Donc c'est-à-dire que les eaux qui s'infiltrent ont du mal à s'écouler. Et puis on a eu effectivement pendant les deux ou trois mois qui ont précédé des séquences de pluie fréquentes, plus fréquentes que ce que l'on a habituellement. En gros, on a 7-8 perturbations en hiver par mois. Et bien là, on en a eu le double. C'est-à-dire qu'en gros, on avait un jour sur deux des pluies diluviennes qui sont accumulées. Et là, bien évidemment, le bassin versant, c'est-à-dire l'accumulation de ces pluies sur le bassin de la Seine, et bien a commencé à grimper, ne pouvait plus évacuer cette pluie. Et on en est arrivé à cette crue majeure.
Ça veut dire que aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle crue où on se dit que toutes les précautions sont évidemment prises, plus jamais de 1910 chez nous?
Non, j'ai horreur d'être effrayant avec la météorologie parce que bon, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir des variations, parfois quelques excès. Donc j'aime pas aller dans la mauvaise nouvelle, mais c'est clair qu'un jour ça arrivera de nouveau. Oui, un jour. Alors quand? Est-ce que c'est l'année prochaine? Dans 100 ans? Dans 150 ans? Ça, c'est impossible à dire. Pourquoi? Parce que en fait, on aura forcément à un moment ou à un autre des perturbations qui vont s'accumuler sur deux, trois saisons, qui vont continuer à circuler sur la France. Pourquoi? Parce que voilà, on est dans une zone tempérée et qu'il arrivera de nouveau que des perturbations s'enchaînent comme ça sur notre territoire de manière tout à fait normale et qu'on arrive de nouveau à une situation amenant une crue. Et ce ne sont pas les quelques réservoirs qu'on a pu créer.
Après 1910 d'ailleurs.
Après 1910. Oui, ouais. On a mis beaucoup de temps d'ailleurs parce qu'on a la mémoire courte. Après, on se dit, oh, ça ne va pas revenir. Alors on ne les fait pas. Puis au bout d'un moment, paf, revient une crue. On se dit, ah bah si, il faut les faire. Le dernier date de 1990. C'est pas si vieux que ça,
ah,
finalement.
Oui. Ça suffira pas.
Mais si on arrive aux mêmes quantités de pluie qu'en 1910, ça ne suffira pas pour empêcher une crue majeure.
Quand la météo fait l'histoire, c'est le titre de votre livre, Louis Baudin, publié chez Albin Michel. Et vous y racontez aussi un hiver resté célèbre, celui de 1954. Le 1er février, un abbé vient sur les antennes de Radio Luxembourg pour dire ceci.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
L'abbé Pierre, évidemment, 1er février 1954, quand il lance cet appel sur l'ancêtre d'RTL, Radio Luxembourg, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il se bat.
Oui, ça fait plusieurs mois qu'il se bat parce que de toute façon, la société évolue et effectivement, ça devient de plus en plus intolérable de savoir que sur le territoire français, on ne parvient pas à se loger. Et évidemment, quand en plus il fait froid, quand les conditions météo sont difficiles, c'est encore plus insupportable, évidemment, de savoir que des gens, des enfants, cette mère, effectivement, se trouvent dehors, sans toit, pour se protéger dans un pays qui est en pleine phase de reconstruction, effectivement, d'après-guerre. Donc ça, c'est insupportable. En fait, la situation météorologique n'est pas pire. Je pense que ce qu'on a évoqué, 1709 ou sous le règne de Louis XIV, sauf que là, la civilisation évolue un peu, nos mentalités évoluent un peu, notre prise de conscience évolue. Oui, mais probablement.
Qui deviennent insupportables.
Mais à ce moment-là, les morts deviennent insupportables. Et c'est bien. Ça veut dire qu'on se dit, mais c'est pas possible. La solidarité apparaît. Mmh. Et effectivement, bah, c'est l'abbé Pierre qui déclenche tout ça. Et on sait d'ailleurs derrière comment est-ce que d'un seul coup, il y a cette prise de conscience. Parce que il réquisitionne un hôtel. Et puis là, bah, l'hôtel, il est submergé par l'arrivée de vêtements, de nourriture. Et donc finalement, cet appel-là est une espèce d'électrochoc. Et je pense qu'il y a avant et après dans la solidarité et dans cette prise de conscience que, ben bah, oui, on est en France. c'est, il faut qu'on apprenne à partager, il faut qu'on apprenne effectivement à faire attention à l'autre.
Ouais. Mais ça a été un hiver, vous citiez 1709 ou 1788, on a parlé de ces deux hivers tout à l'heure. Est-ce que c'est une vague de froid comme ça aussi longue, ces deux vagues de froid, comment ça s'est passé?
Alors,
en fait,
c'est pas aussi long que 1709 ou que 1800 ou que 1789 ou 1788, mais en revanche, ce sont quand même deux vagues de froid intenses et c'est suffisant parce qu'en fait, quand on a une période un petit peu longue, quand on a une succession de jours froids, de jours un petit peu moins doux, c'est supportable. Mais quand s'enchaîne encore une fois des journées où ça ne dégèle pas, comment est-ce qu'on se met à l'abri? Comment est-ce qu'on se protège d'un froid qui ne cesse jamais? C'est-à-dire qu'on n'a pas de phase où on va se réchauffer, où on va pouvoir de nouveau recréer quelques calories. Mmh. Et là, ça devient insupportable. Et effectivement, on arrive à des morts. Et c'est ce qui s'est passé dans cet hiver 1954.
Qu'est-ce que ça va changer politiquement, cet appel? Qu'est-ce qu'il va y avoir après?
Je crois que c'est ça. Après, il y a un électrochoc. Et donc après, on se dit, mais c'est pas possible que dans la phase d'hiver, on puisse laisser les gens dehors. Et on en vient, c'est toi qui est encore d'actualité aujourd'hui, ouais, où on ne peut plus expulser de gens, quelle que soit leur habitation ou quelle que soit leur position sociale, de leur habitation du mois de novembre jusqu'à la mi-mars à peu près.
Il y a eu depuis 1954 d'autres épisodes météo majeurs. Il y a eu la canicule de 76, celle de 2003 par exemple. Qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque aussi des réactions politiques?
On s'aperçoit que plus on avance, plus effectivement la moindre victime, ou en tout cas la moindre personne qui est laissée à l'abandon, ou en tout cas à la merci de la météorologie, n'est plus acceptable. Donc c'est vrai qu'on essaie de créer des lois, on essaie de créer des règles, on essaie de s'installer en dehors de ces zones à risque, même si on ne le fait pas partout, hein, et on le paiera, on le voit déjà sur la Côte d'Azur, on le voit sur certaines zones littorales, où parfois on joue un petit peu avec les limites en laissant construire, en laissant s'installer certaines habitations.
Ça veut dire que les leçons de la tempête Xynthia, par exemple, elles ne sont pas suffisamment tirées?
Non, elles ne sont pas suffisamment tirées. Alors, c'est vrai qu'on joue avec le temps, on se dit Xynthia, ça n'arrivera pas avant un siècle, ils ont probablement raison, mais ça reviendra un jour, de nouveau, on aura Xynthia, donc attention quand on construit en bord de mer. Aujourd'hui, sur la Côte d'Azur, on a du mal à faire marche arrière parce que c'est une économie qui est entièrement construite sur ces habitations, sur ces maisons. Mais attention, on le paiera régulièrement, cette exploitation d'un sol qui n'arrive plus à absorber les averses orageuses que l'on subit et que l'on subira encore dans cette zone méditerranéenne.
Merci beaucoup Louis Baudin, c'était passionnant. Il y a énormément d'autres grandes dates historiques à découvrir sous l'angle météo.
De se replonger dans l'histoire, de se remettre dans l'époque. Moi j'adore ça, de se remettre, de s'imaginer à la période.
Ça s'entend, Louis Baudin. Voilà.
Et ça se lit quand la météo fait l'histoire, c'est chez Albin Michel. Merci Louis.
Vous écoutez RTL.